Vous écoutez, on lit pour vous.
Risquer sa vie pour une intervention esthétique à l'étranger. Un texte de Jasmine Legendre et Laurence Thibault, paru le 18 juillet 2024 dans Le Devoir. Je n'avais pas réalisé que mon enfant était en train d'agoniser. Dans sa maison de Saint-Lambert, Anne-Marie Wilson regarde des photos de sa fille aînée, Florence McConnell. Elle aimait beaucoup les princesses, relate-t-elle. Il y a un peu plus de 2 ans, Florence, alors âgée de 26 ans, a pris l'avion vers le Maroc pour y subir une liposuction dans l'espoir de retrouver une relation saine avec son corps. Elle y a plutôt trouvé la mort. Toute sa vie, elle avait fait des diètes et de l'entraînement. Elle perdait du poids, le retrouvait, explique Anne-Marie Wilson. La sœur de Florence, Viviane, raconte que celle-ci était victime d'intimidation à l'école. Elle estime que la société lui a mis la pression de correspondre à certains critères de beauté. On est toutes sur les réseaux sociaux. C'est tellement facile de se comparer aux plus minces, aux plus belles. Or, sur les réseaux sociaux, le recours à la chirurgie plastique dans des pays où ces interventions sont offertes à bas prix est aujourd'hui très publicisé, notamment par de nombreux témoignages positifs. Je vais me faire faire un redrapage mammaire, une abdominoplastie complète, une liposuction, une augmentation mammaire et un lifting brésilien des fesses pour 10 000 $, lance par exemple la créatrice de contenu Erin Jeanne, qui s'est rendue au Mexique pour un « mommy makeover », un terme désignant des interventions esthétiques faites à la suite d'une grossesse. La facture totale pour ces mêmes interventions s'élèverait entre 30 000 $ et 42 000 $ à Montréal, selon une recension réalisée par la clinique McRae Plastic Surgery. Un secret bien gardé. À la fin de l'année 2021, l'idée d'une liposuction fait son chemin dans la tête de Florence. Elle en discute avec sa mère, récemment installée au Maroc pour le travail. Celle-ci la met en contact avec une chirurgienne marocaine, Salma Ouazzani, qui avait exercé au Québec jusqu'à sa démission du Collège des médecins en 2021. Dans mon esprit, Florence serait opérée par une médecin qui connaît les standards nord-américains, explique Anne-Marie Wilson. L'intervention a lieu en mai 2022. Peu de gens dans l'entourage de Florence savent qu'elle est sur la table d'opération. On n'avait jamais parlé de la raison pour laquelle elle allait là-bas, dit son père Brian McConnell, rencontré au club de cheerleading Flames, dont Florence faisait partie. Il a su que sa fille s'était fait opérer seulement quelques heures avant qu'elle décède. Elle voyait ça comme étant la seule solution, puis elle avait peur d'en être découragée par l'un de ses proches, explique Anne-Marie Wilson. Honnêtement, on avait discuté, mais on avait très peu pensé au risque. Une opération qui vire au drame. Anne-Marie Wilson se souvient que la chirurgienne Salma Ouazzani était très optimiste lorsqu'elle est passée voir Florence à l'unité post-opératoire dans l'après-midi qui a suivi l'intervention. Florence n'est remontée à la chambre qu'en début de soirée. Moi, j'ai senti que ça n'allait pas très bien. Dans les jours qui ont suivi, l'état de Florence s'est détérioré. Le vendredi matin, très tôt, elle m'a texté. Elle était encore capable de texter avec un doigt. Et elle m'a dit « Viens, je suis arrivée ». Puis là, j'ai vu les fameuses machines en lien avec le cœur. Puis, j'ai compris que ça ne se passait vraiment pas bien. La clinique de la Dr. Ouazzani n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Quelques jours après le décès de Florence, Anne-Marie Wilson a pu consulter le rapport d'autopsie marocain et en recopier la conclusion. Il y est noté que des défaillances multiviscérales à la suite d'une liposuction et un traumatisme abdominal auraient mené à une embolie graisseuse. La famille a entrepris des démarches judiciaires au Maroc afin de faire la lumière sur les événements. Des cas rares. Il n'existe aucun rapport du coroner signé dans les 10 dernières années qui porte sur un décès de ce type, selon les réponses fournies à nos demandes par le bureau du coroner. Le coroner québécois Jacques Ramsey est chargé d'enquêter sur la mort de Florence, mais la démarche est suspendue jusqu'à la fin de la procédure d'instruction marocaine. le cas de Mélanie Jutra, décédée à la suite d'une intervention bariatrique en Tunisie, a fait les manchettes récemment. Elle avait quant à elle fait affaire avec l'agence de tourisme médical Medcare Vacances, basée à Montréal, qui se spécialise en opérations esthétiques bariatriques et dentaires effectuées à l'étranger. Est-ce que ces morts auraient pu être évitées si les interventions avaient été faites au Québec? Selon le président de l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec, le Dr Éric Ben-Simon, les normes ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Il y a beaucoup d'endroits qui offrent des chirurgies à l'étranger. On ne connaît pas le détail de la situation. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'on voit un nombre considérable de patients qui reviennent avec des soucis qui doivent être pris en charge à l'hôpital, comme des infections ou des saignements. On va souvent voir aussi des patientes où ça n'a pas guéri de façon idéale, explique-t-il. L'influence des réseaux sociaux. Brian McConnell tenait à ce que l'histoire de sa fille soit racontée pour que sa mort ne soit pas vaine. Tous ces gens qui trichent avec la réalité rendent beaucoup de jeunes filles et garçons mal avec eux-mêmes, mal avec leur corps. Je trouve que c'est scandaleux. Ils souhaiteraient que ces messages soient davantage encadrés. Le docteur Éric Ben-Simon abonde dans son sens. Ici, déontologiquement, on va nous demander de ne pas être trop agressif sur ce genre de messages qui poussent à la consommation d'interventions esthétiques. Si les patients et les patientes québécois sont exposés à ce genre de publicité, c'est peut-être le temps que les autorités réglementent un petit peu plus. Viviane McConnell comprend ce que vivait sa sœur, mais elle aurait souhaité qu'elle utilise d'autres voies que la chirurgie pour soigner son mal-être. Chacun a ses complexes, mais je pense qu'il y a d'autres solutions avant de se rendre là. Moi-même, je peux être influencé. Je suis une jeune fille et c'est facile avec les réseaux sociaux. C'était « Risquer sa vie pour une intervention esthétique à l'étranger », un texte de Jasmine Legendre et Laurence Thibault, paru le 18 juillet 2024 dans Le Devoir.
Ce refuge dont personne ne veut, un texte de Maxime Bergeron, paru le 19 juillet 2024 dans La Presse. Plus je creuse cette histoire de refuge pour sans-abri dans une église de Rosemont, plus je me gratte la tête. C'est à n'y rien comprendre. Le dossier de l'église Sainte-Bibiane ressemble à une séance d'improvisation de la ville de Montréal sur toute la ligne. Comme un accident de voiture au ralenti. Je vous résume l'affaire. La ville a offert 2,5 millions de dollars en décembre dernier pour acheter cette église et son presbytère, situé dans un secteur densément peuplé du quartier Rosemont. L'idée initiale, y installer une ressource d'hébergement d'urgence pour 30 à 50 personnes en situation d'itinérance. Jusque-là, ça se défend. La crise est grave et la ville reste à l'affût des locaux disponibles. D'accord. Mais le hic, et il est énorme, c'est que personne ne pense que c'est une bonne idée. Personne. Aucun des organismes communautaires pressentis par la ville n'a voulu s'y installer pour des raisons très claires que je vous expliquerai plus loin. Les centaines de familles voisines ont été sidérées d'apprendre l'existence du projet dans un article du Devoir début janvier. Elles craignent les débordements, d'autant plus que 5 écoles se trouvent dans un rayon rapproché. Pire encore, l'autorité ultime en matière d'itinérance, le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, a déconseillé à la ville d'aller de l'avant. C'était en février, après le dépôt de l'offre d'achat. Selon des documents obtenus en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le CIUS estime que le projet n'est pas défini et que l'Église n'est pas adaptée. Pourtant, la ville continue à foncer plein gaz dans son processus d'acquisition. La vérification diligente de la transaction suit son cours. J'ai parlé à beaucoup de gens ces derniers jours pour essayer d'attacher ensemble les ficelles de cet étrange projet. Donnez-moi 2 Tylenol, s'il vous plaît. La toile de fond est connue. Il manque de place dans les refuges d'urgence. Plusieurs baux signés pendant la pandémie arriveront bientôt à échéance. La ville aimerait acquérir pas moins de 14 bâtiments, m'a-t-on indiqué au cabinet de la mairesse Plante. Cela ramène au premier plan une question. La ville possède au moins 70 immeubles vacants. Ne pourrait-elle pas en rénover au moins quelques-uns, plutôt que d'en acheter de nouveaux à la chaîne? Je n'ai toujours pas de réponse à cette question. Toujours est-il que quelqu'un, à la ville, a jugé que l'église Sainte-Bibiane pourrait être une bonne candidate pour héberger un refuge. Après l'offre d'achat, le site a été proposé à au moins 2 organismes qui avaient besoin de locaux, la Mission Bon Accueil, MBA, et le Cap Saint-Barnabé. Tous 2 ont décliné l'offre. Après 5 minutes, on était capable de dire « ce n'est pas pour nous », a relaté Sam Watts, le grand patron de MBA, l'un des principaux organismes d'aide aux sans-abri à Montréal. Mettre des gens dans un sous-sol d'église qui n'est pas vraiment équipé, avec des enjeux de voisinage, d'entrée et sortie, de salle de bain, ce n'était pas souhaitable, a-t-il continué. Selon nous, les anciennes églises ne sont presque jamais des endroits où c'est souhaitable de bâtir des hébergements d'urgence. Ce qui m'a le plus frappé dans son propos est ceci : entasser des gens dans un tel lieu n'est pas digne. Ça ne répond même pas aux standards minimums. Le Cap Saint-Barnabé, un organisme qui exploite 3 refuges dans Hochelaga-Maisonneuve, a aussi examiné l'église Sainte-Bibiane pour y reloger 90 sans-abri. Mauvaise idée. Les travaux à effectuer auraient été pharaoniques, m'a expliqué sa directrice générale, Michèle Patnaud. Ça demandait une logistique de reconstruire des cubicules pour séparer les hommes et les femmes, de faire des aménagements sanitaires, de faire des douches, des trous dans les planchers pour faire un escalier, m'a-t-elle expliqué. On calculait l'estimation des rénovations et plus le temps avançait, plus la facture montait. La gestionnaire sait de quoi elle parle. 2 des 3 refuges de son organisme sont déjà logés dans des églises. Les égouts refoulent au moins une fois par semaine, avec le volume énorme de douches et de visites aux toilettes de la clientèle itinérante. C'est très loin d'être un lieu idéal, en somme. La mobilisation citoyenne est massive dans le quartier. J'ai parlé à 2 parents, membres d'un comité organisateur. L'un d'eux, Simon Lévesque, dont les filles de 10 et 12 ans fréquentent l'école voisine de Sainte-Bibiane, dénonce l'improvisation et le manque de communication de la ville depuis le jour 1 dans ce dossier. Nous, ce qu'on demande à l'administration, c'est « faites-nous part de votre stratégie, de votre planification », m'a-t-il dit. Et aussi, analyser ce qui se passe dans les quartiers où ce type de ressources existe déjà pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Près de 1600 résidents du secteur ont signé une pétition. Ils demandent non pas l'annulation du projet, mais plutôt qu'il soit adapté à la réalité familiale du quartier. Par exemple, une ressource plus petite pour des jeunes ou des aînés en difficulté. Ils veulent éviter de vivre une situation comme dans Saint-Henri, où l'installation de la maison Benoît-Labre a causé des dizaines d'incidents en 2 mois à peine. On s'est fait dire par l'arrondissement que dans les valeurs locales, il faut être inclusif, m'a dit Monsieur l'évêque. On l'a toujours dit. On est prêt à faire notre bout, mais ici, on ne parle pas juste d'inclusion. On parle d'adhésion sociale. Prochaine étape pour ces citoyens, récolter 15 000 signatures d'ici 90 jours pour déclencher une consultation publique sur l'avenir de l'Église. Il y avait déjà un organisme communautaire dans le presbytère de Sainte-Bibiane, la Maison d'Erel, destinée aux réfugiés atteints du VIH. L'organisme a signé un bail en juillet 2023 avec la fabrique de la paroisse, propriétaire de l'église. Elle avait commencé des travaux pour aménager 9 chambres, dont 6 étaient déjà prêtes, lorsque la ville a lancé son processus d'acquisition. Malgré ses plans d'architecte et des promesses de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, son permis d'occupation n'a jamais été accordé. La directrice générale de l'organisme, Michèle Blanchard, dit avoir appris l'acquisition de l'église par la ville d'une journaliste du Devoir en janvier 2023. On est allé à de multiples rencontres. On a demandé pourquoi on ne pouvait pas continuer à l'habiter au moins pendant le processus, lance-t-elle. Ce qui me fâche, c'est qu'un an plus tard, il n'y a toujours pas de projet, toujours pas d'organisme à signer. L'administration de Valérie Plante me dit que le projet a évolué et qu'il n'est plus question de créer un refuge de première ligne avec une clientèle déstructurée ou en crise. Elle s'engage à consulter la population pour la suite des choses. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Je laisserai quand même le mot de la fin à Michèle Blanchard. Malheureusement, je dois vous dire que ça a été très mal mené, en huis clos, sans aucune transparence, et pendant ce temps-là, on a perdu une année. C'était « Ce refuge dont personne ne veut », un texte de Maxime Bergeron, paru le 19 juillet 2024 dans la presse.
Le mystère des parachutes spatiaux. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 16 juin 2024 dans La Presse. Question de Marc Julien, un lecteur. Pourquoi les parachutes des capsules spatiales ramenant des humains sur Terre n'ont-ils jamais de défaillance et s'ouvrent-ils toujours? Chance ou technologie infaillible? Parce qu'ils sont testés de façon plus poussée que les parachutes normaux. Et parce qu'il y a parfois deux niveaux de redondance. Les parachutes des capsules spatiales sont testés beaucoup plus que les autres parachutes parce qu'ils sont soumis à des conditions extrêmes, explique Roberto Montanes, PDG de Butler Parachute Systems en Virginie et président de l'Association de l'industrie du parachute. Et on n'a pas seulement un niveau de redondance, un parachute de secours, mais parfois deux. En règle générale, les parachutes sont conçus pour ne pas fonctionner parfaitement une fois sur mille, dit M. Montanes. Pour cette raison, les parachutistes récréatifs ont un parachute de secours, souvent déclenché par un altimètre. Depuis 30 ans, le nombre de décès en parachute récréatif aux États-Unis a varié entre 10 et 30 par année, avec 5 000 ouvertures de parachutes de secours sur plus de 3 millions de sauts par année. Les parachutes spatiaux sont plus simples que les parachutes récréatifs, qui sont souvent rectangulaires, selon Chris Steffen, PDG de Canadian Aerosports, un fabricant de parachutes de Vancouver qui avait son atelier à Montréal jusqu'à la fin des années 1980. Ce sont des parachutes ronds. La technologie n'a pas beaucoup changé depuis Apollo. Il y a simplement de nouveaux matériaux. Certains de ces nouveaux matériaux ont permis d'améliorer les parachutes récréatifs, selon M. Montanes. Il y a aussi beaucoup de travail fait par les fabricants de parachutes spatiaux sur la modélisation pour être sûr de la sécurité, dit-il. Ces logiciels de modélisation sont éventuellement disponibles pour tous les fabricants. Ça aide à concevoir de nouveaux parachutes. La capsule Starliner de Boeing, qui vient de réussir son premier vol humain vers la station spatiale américaine, la capsule lunaire Orion, ainsi que la capsule Dragon de SpaceX, ont pourtant connu des problèmes dans le développement de leurs parachutes. Pour Starliner et Boeing, les problèmes étaient liés aux câbles reliant les trois parachutes à la capsule, selon M. Stephen. Pour SpaceX, un nouveau matériau, plus léger, s'est révélé vulnérable aux rayons ultraviolets du Soleil et aux chocs d'ouverture. SpaceX a diminué de moitié le poids de ses parachutes par rapport à ceux de Boeing et Starliner, dit M. Stephen. C'est une amélioration très importante. C'est, entre autres, ce qui leur permet d'avoir un coût par astronaute pour aller sur la station spatiale de 55 millions US contre 90 millions US pour le Starliner de Boeing. En 2019, après qu'un test inhabité de la capsule Dragon a échoué, parce qu'aucun de ses trois parachutes ne s'était ouvert, Elon Musk avait déclaré « Les parachutes, ça a l'air facile, mais ce n'est vraiment pas facile. » Le poids total des parachutes de Dragon est inférieur à 250 kilos, selon M. Stephen. En savoir plus. Source, Association du parachute des États-Unis. 42. Nombre de morts par année en parachutisme récréatif dans les années 1970 aux États-Unis. 16. Nombre de morts par année en parachutisme récréatif depuis l'an 2000 aux États-Unis. C'était Le mystère des parachutes spatiaux. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 16 juin 2024 dans La Presse.
Infections post-opération, elles sont généralement causées par nos propres bactéries. Un texte de Raphaël Derome, paru le 3 juillet 2024 dans Québec Science. Lors d'une infection, après une intervention chirurgicale, on tente à mettre en cause l'hygiène déficiente dans les hôpitaux. Or, la bactérie problématique provient le plus souvent de la personne opérée. On a beau stériliser les équipements, désinfecter les surfaces, filtrer l'air, porter une tenue chirurgicale, donner des antibiotiques, aseptiser la peau avant l'incision, il existe toujours un risque d'infection après une intervention chirurgicale. C'est la complication la plus coûteuse et la plus fréquente, environ une intervention sur 30. On fait tout ce qu'on peut, mais ces infections continuent à survenir sans qu'on sache pourquoi, déplore le docteur Dustin R. Long, anesthésiologiste au service de soins intensifs du centre médical Harborview à Seattle, aux États-Unis. Pour tirer l'affaire au clair, ses collègues et lui ont prélevé les bactéries du nez, du rectum et de la peau du dos de 204 personnes avant une opération à la colonne vertébrale. C'est une opération propre. L'incision se fait loin des zones chargées en bactéries, comme la bouche ou l'intestin, précise-t-il. Malgré cela, 14 infections sont survenues, avec de graves conséquences. Il faut prendre 6 semaines d'antibiotiques ou retourner au bloc opératoire pour se faire retirer les implants, les os ou les tissus infectés, explique le médecin. L'analyse génétique des bactéries en cause a révélé qu'elles étaient très variées. Et dans 86 % des cas, elles provenaient de la personne opérée. En outre, 59 % des souches bactériennes impliquées étaient résistantes à l'antiseptique ou à l'antibiotique utilisé. Changer de paradigme. Ces résultats, publiés dans Science Translational Medicine en avril 2024, ne signifient pas que les mesures d'hygiène dans l'hôpital sont inutiles. C'est plutôt le signe qu'elles fonctionnent si bien que la seule source de contamination restante est le corps des patients ou patientes. Selon le Dr Long, ce constat a provoqué deux types de réactions dans son entourage. La moitié était déjà au courant et l'autre moitié n'en revenait pas. Pour lui, cela démontre le manque de compréhension commune des infections post-opératoires. Les connaissances fondamentales ne sont pas assez intégrées dans les pratiques de prévention et la conscience populaire. À court terme, son équipe veut revoir les instructions données aux gens sur l'hygiène et les soins de la peau avant une opération. À long terme, le but serait de tester l'ensemble de leur microbiote. En connaissant l'éventail de bactéries présentes, et surtout lesquelles sont résistantes, on pourrait choisir les bons antibiotiques et antiseptiques. Notre laboratoire travaille déjà à mettre au point des tests abordables et rapides en 4 à 6 heures, lance le Dr Long. La rapidité sera la clé, dit Étienne Belzile, chef de service du département d'orthopédie à l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. On a déjà de la misère à préparer les patients assez à l'avance pour leur chirurgie. Les protocoles actuels prévoient 5 jours d'antibiotiques et de lavage à l'éponge antibactérienne. Mais une chirurgie est parfois prévue avec seulement 3 jours d'avance. Il est étonnant que le délai de préparation d'un patient puisse être inadéquat après 1 an sur une liste d'attente. Mais ça arrive. C'était Infections post-opération. Elles sont généralement causées par nos propres bactéries. Un texte de Raphaël de Rome, paru le 3 juillet 2024 dans Québec Science.